Salut et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast du Journal de la Montagne consacré à l'actualité de la SM Clermont avec à mes côtés deux dignes représentants du service des sports de la montagne, Fred Vernat et Didier Cros. Bonjour messieurs.
Salut Greg, c'est trop d'honneur.
Bonjour Greg, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Les Clermontois qui se sont inclinés sur la pelouse du Racing, ce que je dois dire pelouse, enfin en tout cas sur le terrain du Racing.
Pelouse synthétique.
Ouais, pelouse synthétique du Racing.
Sur la future piscine.
sur le site de la future piscine olympique, effectivement. Les Clermontois qui sont inclinés et qui ont beaucoup raté, mais ça, on va en parler. La question qui va nous animer aujourd'hui, c'est est-ce que l'ASM va jouer la Challenge Cup à plus d'un titre ? C'est la question qu'on se posera aujourd'hui. Et en deuxième partie, bien sûr, on délivrera, comme d'habitude, nos top flops. La question, j'ai voulu laisser la chance au produit, mais j'ai pas très bien compris, je vous avoue, la question que vous voulez vous poser aujourd'hui. En quoi l'ASM pourrait jouer à plus d'un titre la Challenge Cup ? Didier ?
Il y a plusieurs raisons de pas la galvauder, de pas faire l'impasse sur cette compétition. Il y a deux raisons, c'est-à-dire d'une part, enfin au moins deux raisons. D'une part, la première, se remettre un petit peu les idées en marche et regonfler un petit peu son moral. La deuxième aussi, c'est redonner un peu de plaisir à son public. Et la troisième, éventuellement, en cas de bon parcours, s'offrir une fin de saison sympathique. Ce que ne va probablement pas lui offrir le top 14.
Fred, d'accord avec ça ?
Complètement d'accord avec ça.
Bon, bah, fin d'histoire alors. On passe au top flop tout de suite.
Non, mais une compétition à plus d'un titre. Alors, c'est un seul titre, hein, cette Challenge Cup, mais on connaît l'histoire de cette compétition à l'ASM. C'est une compétition qui a régulièrement réussi à l'ASM. Je suis d'accord avec Didier, ça permettrait effectivement de s'offrir un petit ballon d'oxygène sur cette fin de saison qui est particulièrement anxiogène et douloureuse, hein, parce qu'il y a des perspectives au niveau du classement du top 14 qui laissent augurer des matchs couperés, enfin en tout cas des matchs couperés pour la survie en top 14 et pas pour espérer autre chose que le maintien. Donc aller chercher pourquoi pas des matchs intéressants en phase finale en allant loin. Je trouve aussi que le tableau de cette Challenge Cup le permet. Il y a des adversaires qui me semblent pas imprenables pour cette équipe de l'ASM. On sait que le public aussi peut adhérer et revenir un petit peu soutenir son équipe si les résultats sont au rendez-vous dans cette compétition. Donc il y a que des bonnes choses à aller chercher.
Mais avant de parler de Challenge Cup, si vous voulez bien, on va commencer par débriefer la rencontre des Clermontois au Racing, des Clermontois qui sont inclinés 26-10. Didier, t'étais au match. C'est un peu le festival des occasions à rater, cette rencontre.
Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Clermont a rarement dominé un match, peut-être à l'extérieur cette saison, samedi, là, comme il l'a fait samedi, comme les Clermontois l'ont fait samedi, pour à la sortie repartir avec un zéro pointé. C'est assez incroyable au regard des statistiques, d'ailleurs. Quand on va publier demain, qui sont parus dans nos colonnes, sur notre site dès hier, comment cette équipe a pu perdre cette rencontre en dominant de cette manière dans tous les compartiments du jeu ou presque les Racingmen. Mais bon, les statistiques, ça fait pas tout, et il y a le réalisme dans les deux surfaces, comme on dit en foot, qui fait la différence. Et là, en l'occurrence, Clermont a été nettement moins performant que son hôte parisien.
Dans le journal de ce dimanche, d'ailleurs, toi, tu fais, Didier, dans un article, la liste, hein, des occasions ratées. Je te reprends. 11e, Beria retourné dans l'en-but. 15e, un contact qui tue l'action. Clermont qui était dans la moitié de terrain du Racing. Et Genot, derrière son pack, c'est également Rob Simmons qui prend l'intervalle avant de servir stick se rompt, alors que la défense francienne s'emborde de position. Simmons et Jedrek se télescopent et se mettent à la faute. 20e, Fall échoue à 2 mètres. 47e, pénal touche mal négocié. 50e, Yato trop court. 57e, Sowakula Astrou. 60e, Yatos déchire, et 75e, Delgui oublie le ballon. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait 8 occasions énormes.
Ça arrive individuellement, une, deux occasions, c'est déjà beaucoup à ce niveau-là. Mais là, dans ces proportions, c'est vrai que c'est juste incroyable. Et surtout, comme Didier le disait, c'est que cette équipe de Racing, à l'inverse, n'a pas vraiment eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais a su profiter de quelques ouvertures, de quelques cadeaux clermontois pour scorer. Et le score est juste incroyable. Le rugby, on dit souvent que c'est un sport de statistiques. Hein. Les statistiques permettent beaucoup de lire, de comprendre les matchs. Là, quand on voit les stats, on n'arrive pas à comprendre le tableau d'affichage final.
Au final, les Clermontois qui ne scorent rien du tout en deuxième mi-temps, Didier.
Non, et c'est là où ils ont eu le plus d'occasions. C'est là aussi où peut-être Paris a un peu inversé la tendance également. Et il y a eu beaucoup d'occasions de Clermont qui sont en fin de match qui n'auraient peut-être pas forcément changé grand-chose aussi. Il faut regarder les choses assez objectivement.
Ouais.
Ce sont surtout les occasions gâchées en première mi-temps qui pèsent lourd finalement parce que à ce moment, le score était serré et on aurait bien aimé voir le scénario d'un match où Clermont aurait pris les devants. Ça aurait peut-être changer les choses.
Je suis pas forcément d'accord. Moi, j'aurais vraiment aimé voir un essai clermontois un petit peu avant l'heure de jeu. Là, il y a eu toute une séquence de pilonnage avec beaucoup d'occasions. Bon, le summum pour moi, c'est Soakula en avant au moment d'aplatir et Yato là, Soakula, voilà, Yato dans la foulée. Je trouve que sur cette séquence-là, si l'ASM parvient à marquer, sans doute il y a quelque chose qui se passe. Rien ne dit que l'ASM aurait gagné ce match, mais il y avait la possibilité, si je dis pas de bêtises, de revenir à 6 points du Racing, une équipe du Racing qui avait très honnêtement pas montré grand chose et qui avait eu des blessures assez sérieuses de joueurs cadres. Donc c'est encore une fois frustrant, mais je trouve que ce match c'est un peu le paroxysme de cette saison quoi. On a beaucoup vu peut-être pas dans ses proportions comme le disait Didier, mais on a beaucoup vu ce type de choses, c'est-à-dire des temps forts qui ne sont pas concrétisés et puis à l'inverse des cadeaux incroyables offerts aux adversaires.
Oui.
Je dédouane un petit peu sur les deux premiers essais du Racing hein, qui conditionnent quand même le reste du match. Je trouve que le premier est quand même assez incroyable du Racing. Il y a vraiment collectivement il y a une action, une remontée sur 80 mètres qui est assez folle.
Mais il arrive à la première minute.
Il arrive dès la première minute. Mais
avec une défense où les Clermontois sont restés au vestiaire.
Un petit peu, mais j'ai presque envie de les dédouaner sur cette action. Alors beaucoup moins sur le deuxième essai. Où ils sont tous en train de regarder d'accueillir les pâquerettes et il y a ce coup de pied en fond de terrain.
Mais Fred, il n'y a pas de pâquerettes sur une pelouse synthétique.
Ah, c'est vrai, voilà, c'est peut-être pour ça. Alors.
Avec deux erreurs de Rosière et de Delgui qui cafouillent devant
la précipitation, mais ce qui est incroyable, c'est quand on revoit le moment où c'est Teder, je crois, qui joue rapidement.
C'est Teder qui marque l'essai.
Qui joue rapidement la pénalité. En fait, tout le monde attend une pénale touche, il choisit de la jouer au pied. Et ce qui est incroyable, c'est à ce moment-là, personne ne regarde le ballon en fait. C'est fou à ce niveau-là.
Didier, quand on pense quand même, si on se met deux secondes dans la tête de Christophe Furios, c'est pas la première fois que son équipe rate des occasions, c'est pas la première fois qu'elle manque de réalisme. Il doit quand même se poser quelques questions. Dans quel état d'esprit il était à la fin de cette rencontre?
Il était très complaisant et très bienveillant envers ses joueurs.
C'était quoi, instant calinothérapie ?
Non, je pense que dans la situation dans laquelle est Clermont, Christophe Furios ne peut pas se permettre de charger ses joueurs.
Ah, il l'a déjà fait en plus.
Oui, mais il l'a fait. Ouais. Justement, dans la période où il est, il ne peut plus se permettre de le faire sous peine d'avoir des joueurs qui se retournent contre lui.
Ouais.
Enfin, entre guillemets. Parce que
perd le fil de la communication avec son groupe. Quoi.
Exactement. Ouais. Et là, ouais. Il est dans une phase où il faut quand même que le groupe et les joueurs restent derrière lui. Et donc, avoir des mots durs comme il a eu à La Rochelle, là, ça serait, à mon avis, très, très risqué, très dangereux, et voire très, très contre-productif. Pardon.
Ce qui avait été modérément apprécié en haut lieu à l'ASM, je crois savoir
ouais.
L'expression attitude de merde, hein, vous vous souvenez,
oui.
Voilà, l'utilisation de ce langage particulier avait été assez peu appréciée. Donc, je crois qu'il s'est fait un peu taper sur les doigts.
Après, quand on prend quelqu'un du profil de Christopher Yost, on sait qu'il a le verbe haut et fort.
Mais dans cette situation-là, il ne peut pas se permettre. Mon ami, il ne peut plus se permettre. Là, il est dans des situations où bon, il y a quand même, ils sont sur le fil du rasoir. Hein. Le match contre Pau, c'était un match bascule. Ça pouvait tourner vinaigre. Donc là, il faut quand même que le groupe, l'intégralité du groupe reste derrière lui et qu'il adhère, enfin, qu'il maintienne l'adhésion. Donc c'est pour ça qu'il est bienveillant et puis qu'il est. Ceci dit, en plus,
il n'a pas tort.
Il
n'a
pas tout à fait tort sur le fond. En plus, même si, quand l'histoire se répète autant, on peut en déduire quand même un certain nombre de choses.
Mais là, on peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir mis les ingrédients, l'investissement. La détermination.
Mais sa responsabilité est forcément engagée parce qu'un entraîneur fait gagner une équipe et légitimement il est félicité pour ça. Quand il n'arrive pas à la faire gagner, sa responsabilité est aussi en cause. Et c'est souvent les mêmes causes qui produisent les mêmes effets.
On va y venir, Didier, en parlant justement de la Challenge Cup. Juste à propos du championnat, toujours cette situation aussi incroyable pour l'ASM Clermont qui est 12e désormais. Donc là, ça commence à devenir
11e ex-aequo,
ouais, 11e ex-aequo avec Lyon.
Et Lyon est meilleur que la Vera. Enfin bon, c'est...
Et qui commence vraiment. Enfin, ça commence à devenir de plus en plus difficile en termes de classement. En revanche, quand on regarde les points, les Clermontoines sont qui a 4 points du 7e, la section paloise, et sont à 4 points en revanche devant le premier barragiste, Montpellier. Toi, Didier, t'écris dans le journal, il regarde derrière désormais.
Ah bah oui, là, tu ne peux que regarder derrière. On regarde déjà de leur premier prochain déplacement où ils vont à Bordeaux. Alors ça serait donc il faudra faire un exploit pour aller gagner à Bordeaux. Hein. Quand bien même ils auraient été 2-3e, c'est un exploit d'aller gagner à Bordeaux. Donc il faudra un exploit pour aller gagner à Bordeaux. Donc après Bordeaux, ils peuvent très bien encore non pas plonger parce que perdre une place parce que Perpignan ne pourra pas les rejoindre, sauf à gagner avec le bonus offensif à l'extérieur. Mais ils risquent encore plus de fragiliser leur position.
Tu veux dire Montpellier, hein,
ne pourra pas oui, Montpellier, excusez-moi. Ah, okay. Montpellier, oui.
Ok, toi, Fred, t'en penses quoi de cette situation? Ça regarde derrière
C'est
fini de regarder devant.
Je ne sais pas si tu as vu Bison Futé, mais il y a un gros embouteillage devant. Donc, ouais, même s'il n'y a que 4 points, effectivement, en soi, le top 6 semble abordable sur le papier. Sauf qu'il y a beaucoup trop d'équipes qui sont impliquées, donc chaque week-end inévitablement beaucoup d'équipes devant vont marquer des points.
Il reste 6 journées, hein.
c'est rien du tout
des journées où Clermont sera obligé de faire jouer beaucoup de joueurs non gifs, c'est-à-dire ne pourra pas faire jouer beaucoup de ses meilleurs joueurs. Donc il y aura des déplacements où il y aura entre guillemets des impasses.
Moi, je vois cette réception de Montpellier aussi qui pourrait être en fin de championnat, qui pourrait être un match à la vie, à la mort. Hein.
D'ailleurs, la seule bonne
enfin,
nouvelle...
à la vie et la mort, à la vie au barrage.
La seule bonne nouvelle du week-end, c'est la défaite de Montpellier à domicile contre le Stade Français. Parce que si on faisait l'histoire, une victoire de Montpellier samedi les remettait à 3 points de plus, donc à 1 point derrière.
Et ça, effectivement, ça aurait été encore plus complexe pour les hommes de Christopher Yost. On va fermer la page du top 14 et se projeter donc en plein dans notre question. Est-ce que la Challenge Cup, les Clermontois doivent la disputer à plus d'un titre? Les Clermontois qui vont recevoir les Cheetahs, ce sera ce samedi en quart de finale de la Challenge Cup. Ce sera donc à domicile au stade Marcel Michelin. Les premiers mots déjà, est-ce que les Clermontois sont favoris pour cette rencontre? On est d'accord que oui.
Par le fait qu'ils jouent à domicile, oui. Après, bon, cette équipe des Cheetahs, elle est relativement, on a peu de choses sur elle. Donc, forcément, comme beaucoup d'équipes sud-africaines, c'est une équipe qui est solide devant, robuste, comme disait Christopher Yost.
Elle a perdu d'un point à Oyonnax, 28-27. Oui. Et elle avait perdu à domicile face à la section paloise, 33-20.
Oui, c'est des résultats qui plaident pas forcément en sa faveur, quoi, aller perdre d'un point. Enfin, quoique Clermont est bien allé perdre de beaucoup plus dans les grandes largeurs là, à Oyonnax. Mais bon, a priori, on peut penser que Clermont est un peu favori par le fait qu'il joue à domicile, quoi. Et que les Cheetahs en ce moment, la saison n'a pas encore commencé, donc ils sont dans une situation un peu compliquée en termes au niveau sportif. Quoi.
Question règlement, est-ce que une victoire en Challenge Cup ouvrirait forcément la Champions Cup au Clermontois?
Une victoire finale, oui. Ouais. Oui, tout à fait.
Donc on est d'accord que c'est exactement ce que Christophe Furios doit faire. Il a 3 matchs pour aller en Champions Cup. Et là, on parlait de saison.
8e.
Pardon, 8e. Oui. J'ai annoncé 8e. Pour le coup, la saison serait extraordinaire pour les Clermontois. Ce serait très bien.
Tu trouves extraordinaire une 13e place et, en championnat et une victoire en Challenge Cup. Dans cette perspective, j'ai un petit peu de mal à voir l'extraordinaire, très honnêtement.
Ils ne sont pas 13e pour l'instant, hein, ils sont 11e.
Non, évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est vraiment une opportunité pour égayer cette saison qui, quand même, prend une tournure assez morose.
Je crois que samedi, en plus, ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'à domicile, ça grogne un peu chez les supporters. Hein. Une nouvelle défaite à domicile serait très mal perçue de la part des supporters. Hein.
Surtout à ce niveau de la compétition, dans cette compétition.
Donc il y a déjà cet aspect-là dont il faut tenir compte. Essayer de se remettre un petit peu ce public dans sa poche qui est... C'est pas encore la révolte, mais bon, il y a de la grogne, hein, et donc une victoire permettrait d'oublier beaucoup de choses, de faire oublier beaucoup de choses.
On a parlé avec Jean-Claude Patz, on a parlé déjà dans ce podcast de la situation de Clermont et très très souvent, on a parlé dans nos colonnes de l'obligation d'aligner des gifs en top 14 et le fait que Clermont avait eu du mal à recruter les gifs qu'il aurait voulu peut-être, mais il n'y a pas de gifs là en Challenge Cup.
Non, là, le staff n'aura pas à se creuser la tête et pourra aligner l'équipe qu'il a envie d'aligner.
Exactement.
Non,
c'est tout le bonheur.
Quel que soit le statut des joueurs, gif ou pas.
C'est tout le bonheur de la non-formation européenne.
Non, mais je me souviens que Christophe Furios en avait parlé sur les dernières journées de la phase de poule. Il disait que c'était pour lui, quelque part, presque une respiration en fait, de jouer cette Challenge Cup parce que c'était un casse-tête en moins, justement. Il n'avait pas cette donnée essentielle. On a vu les chiffres, c'était juste avant le. La LNR a communiqué les chiffres officiels, point de passage, juste avant le match contre le Racing. L'ASM est exactement dans les clous. 16 gifs de moyenne sur la saison. Donc,
Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'il ne va pas falloir avoir de blessés en gifs d'ici la fin de saison, hein, et...
Ça fait partie des...
Ça, on ne le maîtrise pas.
Ça fait partie des
aléas du jeu,
des aléas. Hein, le Racing aura perdu 2 joueurs en gagnant. Ça fait partie de...
Mais revenons donc à la Challenge Cup. Cette équipe de Clermont, non assujettie à la règle des gifs, est-ce qu'elle est capable d'aller chercher cette compétition? Parce qu'elle vaut mieux que vraisemblablement que cette 11e place. Je me trompe ou pas?
Ah non, si elle est 11e, c'est qu'elle mérite d'être 11e. Hein. Après 20 journées, le classement, il a une signification. Hein. Il marque les forces et les faiblesses d'une équipe.
Ce que je veux dire par là, c'est que si Christophe Furios avait pu aligner une équipe un peu plus forte à l'extérieur parfois, peut-être que Clermont aurait un peu plus de points.
Ouais,
non, pas convaincu. Non, vous avez le droit, je pose une question.
Je suis entièrement convaincu. Je rejoins
non, t'es
assez...
pas convaincu du tout.
Je rejoins assez Didier sur l'analyse de cette saison. En fait, au bout d'autant de journées, il y a une forme de logique sportive qui s'impose. Effectivement, l'ASM, à chaque fois, pratiquement à chaque match, on l'a dit ici dans chaque podcast, oh là là, pas loin, si près. Mais sauf que...
Si près, si loin, c'était ton titre ce dimanche, Didier.
Mais ce titre, tu peux le ressortir sur chaque match pratiquement de l'ASM cette saison. On a l'impression que c'est... Il manque toujours le petit truc, mais oui, ça s'appelle le haut niveau, c'est les détails, c'est peut-être rien du tout au tableau d'affichage ou dans un match, mais on se retrouve avec cette situation qui est récurrente. Et j'ai même envie de dire qu'elle est récurrente pas que depuis cette saison, mais depuis pas mal de temps déjà.
Alors, je vais vous poser Nicole, quel est ce que les anglo-saxons appellent le bracket, le tableau final là, pour la Challenge Cup, c'est quoi grosso modo?
Eh bien, si Clermont gagne, ils prendront le vainqueur de Montpellier-Ulster à domicile.
À domicile.
À domicile, au Michelin.
Ça peut être jouable.
L'Ulster avait disputé la grande compétition européenne. Donc
la Champions
Cup. Elle a été basculée dans la petite après la phase de poule.
En tout cas, ça peut faire un super quart quoi, à domicile.
Ouais, moi j'ai envie de dire à domicile de toute façon.
Oui,
tu pars avec un petit avantage.
Ouais.
Surplus d'énergie. Donc pourquoi pas.
La suite, on la connaît ou pas encore? Non.
Si. Oui, demi-finale, donc après tu croises avec deux quarts de finale.
Donc il va y avoir des conditions
donc,
un peu.
Donc il y a les Sharks contre Parme, contre le Zèbre.
Okay.
Et l'autre quart de finale, c'est Édimbourg contre l'Aviron Bayonnais.
Ok.
Donc voilà.
Réception ou extérieur, ça dépend des équipes qu'on joue.
Les adversaires potentiels.
Si les Sharks sont éliminés, Clermont jouera sa demi-finale à Clermont. Ouais. Si les Sharks se qualifient, cette demi-finale. La demi-finale des Sharks se jouera à Londres.
C'est-à-dire quoi qu'il arrive, okay. L'ASM ne joue pas chez une équipe, ne joue pas véritablement, en tout cas, chez un adversaire. Elle a plus de chances de recevoir. Et si elle joue les Sharks, elle jouera sur terrain neutre, puisque les Sharks, à ce stade de la compétition sud-africain, jouent en Angleterre.
C'est
c'est le rugby.
Hein.
C'est le rugby.
Mais bon, on va pas se prononcer.
C'est le rugby.
Et on se demande devant combien de personnes à Londres là, dans ces cas-là. De la même manière.
Sans doute plus de Clermontois que de Sud-Africains.
Oui, il y a quand même plus de chances que les Sharks se qualifient face à Zèbre que l'inverse.
On peut imaginer, en effet.
On sera attentif. En tout cas, il faudrait que les Clermontois aient déjà jusqu'à ce niveau de compétition.
Déjà, ouais.
Ce qui restera à faire.
Non, mais bon, quand on se dit ça, on voit pas un épouvantail de ce côté du tableau. Ouais. Donc c'est pas inconcevable d'imaginer les Clermontois jouer. Jouer la finale de la Challenge Cup.
Et en tout cas, ce serait une grosse déception s'ils ne participaient pas au moins au quart de finale. Ça serait une sacrée contre-performance. Hein,
donc pour toi, c'est victoire obligatoire contre les Cheetahs.
Obligatoire, je sais pas, mais ça sera encore une nouvelle contre-performance sportive. Et
là, ça serait de quoi se mettre la tête dans le seau pour jouer le maintien en top 14.
Mais le paradoxe, c'est que je pense, comme Didier, que l'ASM a besoin d'une victoire absolument en huitième de finale, de se qualifier pour les quarts de finale. Mais ça serait un casse-tête de plus, évidemment, puisque on ajoute un match dans le calendrier avec la gestion du top 14 qui arrivera juste derrière.
Ouais. Après, si les Clermontois veulent se qualifier pour la Champions Cup, ça reste quand même le chemin plus facile.
Ouais. Est-ce que c'est l'objectif prioritaire aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que le maintien n'est pas l'objectif prioritaire?
Ça sera peut-être l'occasion d'un débat. Pourquoi pas la semaine prochaine? On verra. Ça sera l'occasion. Je pense qu'on va pouvoir le faire, effectivement.
Après le match à Bordeaux où la situation...
Et bon, on prend rendez-vous. Merci messieurs, on va refermer donc la page Challenge Cup et Top 14 et je vais vous demander quels sont vos tops et vos flops. Didier, top ou flop?
Mais mon top, ça sera pour l'USAP de Perpignan qui s'est imposé largement face à Castres samedi à 43-12 et qui pour la première fois de la saison passe devant l'ASM d'ailleurs.
Ouais, et pas que.
Oui, puisqu'ils sont montés à la 10e place, si je ne me trompe pas.
Je vais regarder ça,
au sein de cette équipe, donc l'ancien entraîneur, évidemment, Franck Azema.
Je sens que tu vas parler de Clermontois, toi, non?
Mais des anciens Clermontois qui brillent, avec notamment ta invité Vera Damouk, qui pointait déjà à 10 essais, qui avait fait une pige médicale à Clermont où il avait été relativement transparent. Et Ventondeur aussi qui brille à chaque fois qu'il joue, ce joueur. Nakalevu, bon, qui brille un peu moins, mais bon, Barak aussi, mais surtout Ventondeur, qui avait été trop souvent blessé, et c'est pour la raison pour laquelle il n'avait pas été conservé d'ailleurs. Mais là, il est un peu moins blessé, allez savoir pourquoi. Et il joue bien, il a encore marqué lui un essai samedi, donc sacré joueur.
Ça annonce un savoureux déplacement de l'ASM terre catalane dans quelques temps. Là.
Effectivement, toi Fred, top ou flop?
C'est un top toulousain, un top concernant le retour de Romain Ntamack sur les terrains. Il a joué samedi soir lors de la victoire in extremis du Stade Toulousain contre la section paloise. Il est entré en seconde période. On l'avait plus vu depuis 7 mois quand il s'est pété le genou et ce qu'il a privé de la Coupe du Monde. Une rentrée à la Ntamack. On a vu, alors on sent qu'il manque encore beaucoup de rythme, il l'a dit d'ailleurs en après-match derrière, il parlait de quelques kilos, peut-être même en trop, un souffle court, mais bon, la classe, elle est toujours là, et on l'a vu notamment sur cet essai décisif à la sirène marqué par les Toulousains, voilà, une passe sur un pas qui permet un peu plus loin l'essai de Lebel, l'essai de la victoire, donc voilà, on est toujours ravis de revoir des joueurs sur le terrain et pas à l'infirmerie.
Et il sera frais comme un gardant pour la fin de saison.
Exactement.
Et pour l'équipe de France, là je me projette loin dans le futur, hein, parce que les grandes échéances de l'équipe de France, ce sera plutôt l'année prochaine. Récupérer une charnière du point de Tamac, c'est pas mal non plus.
C'est pas mal, je trouve, comme charnière.
Ça pourrait changer.
Je trouve que ça a assez de la gueule. Hein.
Merci messieurs, on va suivre bien sûr l'actualité de Clermont, donc, qui accueille les Cheetahs, ce sera ce samedi à 13h30. Sera à suivre bien sûr en direct sur notre site, et puis tous les commentaires d'après-match, toutes les réactions dans le journal et sur le site. On se retrouve quant à nous pour débriefer cette rencontre de la semaine prochaine. Ciao les gars.
Ciao,
au revoir à toutes et à tous.